19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, c'est parti pour une heure de commentaires, d'analyses, décryptage, d'actualité. Vous le savez, elle est assez dense. Ce soir, l'allocution, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes à peine. L'allocution du président de la République, on va en parler, d'Emmanuel Macron. Que va-t-il dire? Que va-t-il évidemment proposer dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale? On va tenter évidemment de vous apporter peut-être certainement quelques éléments de langage pour ce soir. C'est maintenant dans une heure. Ensuite, notre invitée, Lamia Laradj, avec laquelle nous allons évidemment tirer les leçons, le bilan de sa candidature. Donc justement, puisque rappelez-vous, on l'avait reçu à plusieurs reprises ici même dans les informés, concernant donc son investiture et puis son avenir, comment se dessine-t-il. On va en parler ici même. Ensuite après, Emmanuel Dupuis, Mehdi El Jaziri et ensuite Gamal Abina. Avec eux, eh bien, nous allons confronter leur point de vue, vous le savez, avec autant de passion aussi, parfois, de clash aussi, certainement. Avec eux aussi, nous allons commenter les trois sujets qui ont retenu notre attention. Tout d'abord, nous reviendrons sur ce gouvernement d'union nationale. Ça veut dire quoi d'abord? Un gouvernement d'union nationale, c'est vrai. Derrière ce mot, que se cache-t-il? Ensuite, après, nous reviendrons sur la NUPES, qui, évidemment, bien sûr, à peine créée, eh bien, elle rencontre quelques difficultés à l'Assemblée nationale pour composer un groupe. Eh bien, on va en parler. Finalement, si on inversait la question, est-ce que la NUPES ou la NUP, hein, on l'entend dans les deux manières, finalement, sous quelle forme va-t-elle s'organiser? Va-t-elle peser véritablement? Ou est-ce le Front, le Rassemblement National, qui lui, va devenir à peu près véritablement le premier opposant de l'Assemblée nationale, puisqu'elle récolte au total, Marine Le Pen, 89 députés. Et puis ensuite, bien sûr, Emmanuel Macron peut-il encore gouverner? Emmanuel Macron et son allocution, eh bien on en parle ici dans les informés sur BFM. Vous le savez, mais vous aussi, au 01 53 48 3000. Vous êtes très nombreux à le faire et c'est une très bonne chose et je vous en remercie. Vous nous appelez de façon très libre et puis vous nous suggérez votre commentaire sur l'actualité. Qu'attendez-vous d'Emmanuel Macron, du président et de son allocution? Ça se passe au 01 53 48 3000. Allez, c'est parti les informés, c'est tout de suite et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et nous accueillons l'invité, évidemment, avec laquelle on a eu quelques difficultés, mais faut reconnaître qu'on a été de plein fouet, on a reçu de plein fouet un bug technique. Ce qui est très rare. Eh bien, c'est parti pour l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Heureux de vous recevoir. Franchement, je suis très heureux de vous recevoir, ma chère Lamia El Haradj. Comment ça va?
Ça va bien, moi aussi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Et ça me rassure, vous êtes souriante.
Participer à cette émission, je suis toujours souriante, il faut toujours être souriante.
La 15e circonscription de Paris, vous n'avez pas finalement eu évidemment escompté le score que vous deviez faire pour évidemment aller, comment dirais-je, décrocher ce fameux siège à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une amertume? Dans quel état d'esprit vous êtes? Franchement, face à Daniel Simonet, avec laquelle vous êtes battu d'arrache-pied, qui remporte ce second tour des législatives, qu'est-ce que vous dites alors?
Bah écoutez, je dis que je suis fière d'avoir mené cette bataille-là et d'avoir mené ce combat-là. Il était nécessaire au vu de la situation qui est celle de la 15e circonscription. Puisque je le rappelle, effectivement, il y a un an, dans le cadre d'une législative partielle, j'ai battu Daniel Simonet dans le cadre, je dirais, d'un combat à la loyale, combat électoral, hein, à la loyale, que j'ai remporté. Donc, dans le cadre de l'accord de la NUPES, dont on parle beaucoup en ce moment, il y avait un préalable qui était la reconduction de tous les députés sortants. Et je suis la seule députée de France à pas avoir été investie dans le cadre de cet accord.
Oui.
Donc, ça nous a amené à une situation où on s'est retrouvé avec une Simonet qui a été battue en 2012 et en 2017 sur la 6e circo, qui a été battue en 2021 sur la 15e circo face à moi, qui a été investie en lieu et place de la candidate qui a été élue.
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle l'emporte?
Bah, ce qui s'est passé, c'est que, je dirais, il y a des électeurs qui ont voté pour le bulletin NUPES, et je leur en veux pas.
C'est pas Daniel Simonet, c'est NUPES.
Tout
donc.
À fait. Bien sûr que c'est pas Daniel Simonet, c'est NUPES. Évidemment que c'est NUPES, et je le comprends. Je comprends tout à fait que les électeurs aspirent à un changement, que les électeurs aient vu dans ce bulletin de vote une forme d'espérance.
Vous dites quoi aux électeurs, d'ailleurs, du 15e arrondissement? Du 15e, de la 15e circonscription, pardon.
Pour ceux qui n'étaient pas au courant, quand on a l'occasion d'échanger, et encore aujourd'hui, qui ne comprennent pas pourquoi je ne suis plus leur députée, je leur explique la situation. Et pour certains, alors qu'ils sont allés voter, ils tombent un peu de leur chaise. Donc il y a quand même, de notre côté, aussi un problème d'information et sur la façon qu'ont les électeurs de se mobiliser autour des enjeux électoraux. Derrière, je pense que cet accord a commis une injustice fondamentale qui fait que, pour ma part, je suis extrêmement sceptique sur cette volonté, cette ambition réelle qu'il porte en termes de changement. Parce que je crois que quand on porte une ambition de justice, une ambition d'égalité, une ambition de transformation radicale du pays, il faut commencer par ses propres rangs.
Lamia El Haradj, qu'est-ce que vous tirez comme leçon, comme bilan justement de ce second tour des législatives face évidemment à ce que vous avez pu mener, face à ce que vous avez pu vivre, face aussi évidemment au pot de banane que vous avez pris. Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon ?
J'en tire la leçon que dans la vie il faut se battre et qu'il faut continuer à se battre. Pour ma part, c'est ce que je ferai. J'en tire une autre leçon, c'est que quand on a un électeur sur deux qui se déplace pas pour aller voter, c'est difficile de lutter contre la défiance démocratique qui s'est installée entre les électeurs et leurs élus. J'en tire aussi une autre leçon, c'est que il y a un certain nombre d'urgences aujourd'hui auxquelles on doit répondre. Et l'urgence sociale, l'urgence climatique, l'urgence démocratique. Et aujourd'hui, il faut arrêter de culpabiliser les gens, il faut apporter des solutions qui soient très concrètes. Mmh. Quand je vois 89...
J'ai entendu dire que vous appeliez à ce que la gauche, à se refonder.
Bien sûr. Bien sûr. 89 députés.
Ça veut dire quoi, ça? Mais elle fait ça depuis des années maintenant.
Non, pas vrai. Elle fait pas ça depuis des années. Elle aurait un peu plus de poids électoral aujourd'hui. Si vous voulez, l'accord de la NUPES...
Ça veut dire quoi,
dans
la gauche, à se refonder ?
L'accord de la NUPES, aujourd'hui, nous est vendu comme étant l'alpha et l'oméga de cette refondation de la gauche. Tant mieux, j'espère que ce sera le cas. Simplement, quand on regarde la réalité des scores électoraux, en nombre de voix, aujourd'hui, la gauche n'a jamais été aussi basse que ce qu'elle est. Elle pèse 30% à elle entière dans le pays. Quand on regarde par ailleurs les duels qu'il y a pu y avoir entre des candidats NUPES, des candidats RN, des candidats NUPES, des candidats ensemble, ce qu'on constate, c'est que le Front Républicain aujourd'hui n'existe plus et qu'un certain nombre de composantes de la NUPES aujourd'hui ne l'incarnent plus. Donc ça pose aussi question sur comment est-ce qu'on reconstruit ça. Donc
moi, j'appelle Mélenchon l'incarne.
J'appelle le Front Républicain. Regardez, les duels LFI-RN en majorité ont été remportés par RN.
Que se passe-t-il au Parti Socialiste, ma chère Lamia El Haradj ? Que se passe-t-il ?
Écoutez,
c'est vrai que beaucoup de gens se passent. Que se passe-t-il depuis ces longues années ? Que se passe-t-il depuis, évidemment ? Vous avez beaucoup de mal, évidemment, à vous redresser. Quel est le problème ? Est-ce que ça se passe en interne ?
Si j'avais une réponse simple à cette question, je pense que les choses iraient sans doute mieux. Enfin, moi ou d'autres, d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Je crois qu'il y a eu un quinquennat précédent qui nous a beaucoup essorés, un quinquennat Hollande qui a beaucoup marqué les esprits. Je crois que les 5 dernières années n'ont pas été marquées par une capacité du PS justement à se refonder, à reparler aux gens, qu'on a une vision de la société qui correspond plus aujourd'hui aux aspirations des gens, qu'il y a un besoin de radicalité qu'on n'a plus été en capacité d'incarner. Ça fait partie des leçons, moi, que j'ai tirées de la campagne que j'ai menée. C'est-à-dire que je fais 42% au second tour, là où personne ne m'attendait. À moi toute seule, entre guillemets, avec l'étiquette du Parti Socialiste, avec l'étiquette de députée sortante. Parce qu'on a parlé d'un sujet qui, pour moi, est fondamental. Mon slogan de campagne, c'était la gauche qu'on aime. Cette gauche qu'on aime, elle parle de l'urgence écologique, elle parle du droit au temps libéré, elle parle de la dignité retrouvée, elle parle de
justement,
tout un ensemble
elle va pouvoir de s'organiser. Est-ce qu'elle va pouvoir s'organiser au sein de l'Assemblée nationale, le Parti Socialiste ? Ils vont exister ?
J'attends de voir, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de difficultés. À la fois, il y a des socialistes qui se revendiquent d'un socialisme hors NUPES et donc qui veulent monter un groupe. On a des socialistes qui s'organisent dans le cadre de la NUPES et qui montent aussi un groupe. On a des députés ultramarins, là je regardais à l'instant, qui veulent aussi se constituer en groupe. Enfin, tout ça est très très compliqué quand même. On va vers une période qui...
Pas très organisé tout ça quand même, hein ?
Non, pas très
donc
organisé.
Donc le Parti Socialiste n'est pas prêt ?
Je ne sais pas si c'est une question de ne pas être prêt. En tout cas, il a vocation à l'être. Et il aspire à l'être. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, la machine est un petit peu enrayée. Donc il y a des perspectives qui sont apportées. Il y a cette union de la gauche qu'il va falloir faire vivre, qu'il va falloir développer, qu'il va falloir travailler pour qu'elle devienne une alternative crédible en capacité de gouverner. Parce que quand on fait 30% à une élection législative, on ne peut pas dire qu'on a gagné. On n'a pas gagné.
C'est très loin.
C'est très très loin d'avoir gagné.
Lamia El Haradj, on a bien compris que vous avez tiré un bilan concernant donc ce second, puisque vous êtes députée sortante. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Qu'allez-vous faire?
Ce que je vais faire, écoutez, je vous dirai ça dans quelques semaines. Là, déjà, je vais me reposer un peu. Je vais m'occuper de mes enfants que j'ai
pas
vu.
Est-ce que vous allez faire un break sur...
pendant un moment? Bah, là, c'est
dans le cadre de la vie politique.
Non, je ne vais pas faire de break dans la vie politique, mais simplement faire des annonces comme ça.
Certains l'ont fait, Najat Vallaud-Belkacem, par exemple, elle a fait un break.
Bien sûr, mais j'ai beaucoup de respect pour Najat
Vallaud-Belkacem. Elle s'est engagée, par exemple, auprès d'une ONG.
Tout à fait, dont elle est aujourd'hui, je crois, directrice générale.
Directrice générale, absolument.
Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question. Moi, ce que je sais, c'est que la vie politique, la politique, elle peut changer la vie des gens. Simplement, la politique, ce n'est pas qu'une affaire d'élus, c'est aussi une affaire collective, et c'est avant tout une affaire collective. Donc maintenant, la question, c'est quelle forme va prendre cet engagement. Je suis conseillère de Paris aujourd'hui, je suis toujours présidente de la troisième commission du Conseil de Paris. On verra dans les prochains mois comment les choses vont se passer. Déjà, on va laisser passer l'été, je vais m'occuper de mes deux petits, et puis on s'en reparle à la rentrée.
Vous restez avec nous ?
Avec plaisir.
Vous allez confronter votre point de vue, justement, avec les débatteurs. C'est parti, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Et le face-à-face, vous le savez, c'est avec des débatteurs influenceurs qui sont avec nous. Je vais accueillir Emmanuel Dupuis. Bonsoir, mon cher Emmanuel.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous grattez dans le papier, là? Qu'est-ce qui se passe?
Je note des...
Il gratte, il est toujours en train de gratter quelque chose, Emmanuel Dupuis. Toujours en plein marathon médiatif, vous, hein? Vous arrêtez jamais?
Non,
à quel moment vous respirez, vous soufflez?
Là, je respire avec vous.
Je sais pas, vous partez en vacances cet été, hein?
Non.
Non,
mais non, malheureusement. Vous savez...
Plateau.
Ah je ma vie n'est pas que sur les plateaux. Hein. Oui. Le plateau, c'est un moyen d'exprimer.
J'ai vu, vous étiez avec l'Azerbaïdjan en ce moment, en pleine réunion stratégique.
J'écris aussi. Hein.
Vous écrivez
j'écris.
Aussi.
J'écris. Je professe aussi, accessoirement.
L'homme qui ne s'arrête jamais.
Ouais. Bon. Et je fais un petit peu de politique, encore.
Face à vous, Gamal Abina. Bonsoir, mon cher Gamal Abina.
Bonsoir, Adil.
Un acteur politique,
monde.
Justement. Tout va bien?
Impeccable.
Mehdi Jaziri, jeune journaliste, comment ça va?
Ça va, vous?
Après la langue, ça va? Vous en sortez indemne après l'histoire du crack?
Ah, encore? Oui,
ouais,
encore.
Il a fait
j'ai fait une immersion.
Il a fait une immersion quand même. Hein. Il a infiltré les toxicomanes en pleine zone.
Là, le reportage va bientôt finir d'être monté. Là, je l'ai normalement dans les mains.
Ça lui a valu quand même quelques blessures, je pense.
Oui. Oui,
voilà, c'est ça.
Ça va.
Ça va.
Je suis là.
C'est vrai, absolument. 01 53 48 3000 jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et vous, on vous donne la parole justement tout de suite. Vous, 01 53 48 3000. Messieurs, madame, messieurs, gouvernement d'Union nationale, on n'entend que ça depuis quelques jours. Quelle idée se cache justement derrière ces termes? J'aimerais aussi qu'on comprenne, puisqu'il a reçu tous les présidents des partis, Emmanuel Macron, le chef de l'État, depuis quelques jours, depuis hier précisément, hier, 9h, depuis 10h, 10h, 11h, chacun, une heure. Donc pour échanger, discuter. Beaucoup ont refusé, d'ailleurs dans la majorité ils ont refusé cet accord donc de gouvernement national. Et bien finalement, avant de comprendre, parce qu'il va y avoir un vrai blocage parlementaire, que veut dire le gouvernement d'Union nationale Emmanuel Dupuis? Et puis on en parle tous. Ah, j'aime bien, ça y est. Alors, il commence fort, clochette, il a droit à une clochette.
Ça dépend d'où on se place. Et ça dépend de quelle expérience on s'appuie. En Allemagne, un gouvernement d'Union nationale est composé des principaux partis qui ont décidé de s'unir sur une base programmatique. En l'occurrence, c'est les 48 pages du document qui lie les libéraux allemands, qui lie la gauche allemande à travers ce qu'est le particularisme de la gauche allemande, c'est-à-dire une gauche allemande plus social-démocrate que ouvriériste ou travailliste, et évidemment les Verts, qui sont plutôt libéraux depuis que Joschka Fischer a incarné cette rupture au milieu des années 2000. Donc le gouvernement d'Union nationale est un gouvernement qui rassemble des partis qui ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, un petit peu comme on peut le trouver à travers un gouvernement d'Union nationale de la gauche française, à travers cette NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologiste et Sociale. Même s'il y a des divergences, je crois, madame, que vous en êtes. Après, le gouvernement national, tel que l'entend...
Emmanuel Macron,
François Bayrou...
Mais surtout qu'il a eu le refus de tout le monde.
Attendez.
Je veux bien attendre, mais bon...
Emmanuel Macron... Non, parce que la question est beaucoup plus complexe. Emmanuel Macron,
c'est pour ça que je vous pose la question.
Et Édouard Philippe n'ont pas la même notion du gouvernement national. D'ailleurs, ils ne l'appellent pas de la même manière. Une coalition, ce n'est pas un gouvernement d'Union nationale.
Non.
Parce qu'un gouvernement d'Union nationale, ça nous ramène à 46, 47 même, c'est le Conseil national de la Résistance,
exactement.
Où tous les partis, tous de l'arc républicain, dont les communistes,
absolument.
Jusqu'à la droite extrême.
Oui,
or, il me semble que le gouvernement d'Union nationale, qu'entend Édouard Philippe, est un gouvernement du national avec les Républicains. Donc ça, c'est une coalition. Et François Bayrou dit il faut s'approcher le plus possible de ce qui est acceptable, c'est-à-dire sans les extrêmes. Et je crois que Fabien Roussel, quand il est sorti de la rencontre avec Emmanuel Macron, n'a pas eu la même perception.
Non, exactement.
De ce que lui a dit le président. Parce que si on a un gouvernement d'union nationale avec les communistes, eh ben, on va aller juste de l'autre côté. Je rappelle quand même qu'il y a 89 députés du Rassemblement national. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils représentent 13 millions d'électeurs.
Il a rencontré aussi Marine Le Pen.
Je ne crois pas que tu lui aies proposé de faire partie du gouvernement d'union nationale.
Me semble-t-il, si, justement.
Du gouvernement d'union nationale.
Ah, si, absolument.
Ouais, alors là, il y a interprétation, je ne suis pas certain.
Il en a parlé.
Non, c'est pas l'interprétation.
Il ne lui a pas proposé, il en a parlé.
C'est une déclaration de Marine Le Pen, pardon, mais c'est une déclaration.
Bon, on va vérifier. Mais moi, il me semble que.
De son rendez-vous avec le président de la République, qui a indiqué qu'il lui avait évoqué la possibilité du gouvernement d'union nationale.
Ah, c'est pas la même chose.
C'est une proposition.
C'est pas la même chose que d'en faire partie.
Voilà,
c'est pas tout à fait.
C'est ce que j'ai dit.
Non, non, il est fait.
Évoquer l'idée de la perception qu'elle aurait d'un gouvernement national n'est pas la même chose que de lui proposer d'en faire partie.
Tout à fait.
Voilà. On va marquer la première pause pub et on se retrouve tout de suite après avec Emmanuel Dupuis.
Vous avez eu sur la clochette, j'espère. Hein.
Oui, bah, vous ne l'avez pas entendu.
Je me permets juste de préciser, oui. Marine Le Pen assure qu'Emmanuel Macron a évoqué un gouvernement d'union nationale avec elle. Voilà les termes exacts de ce qu'elle a
C'est très malin.
Je crois que tout ce qu'on a dit est exactement dans
cette exactement. Allez, on se retrouve dans une poignée de minutes. Restez avec nous, 01 53 48 3000. C'est aussi vous au 01 53 48 3000. Karim de Pantin, ne bougez surtout pas. On vous accueille dans une poignée de minutes.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et c'est avec Emmanuel Dupuis, Lamia El Haradj, avec Mehdi Jaziri et enfin avec Gamal Abina. Je vais donner la parole justement, petit tour de table concernant ce fameux gouvernement d'union nationale. Lamia El Haradj alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce gouvernement?
Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on a un président de la République acculé, qui a refusé tout débat et toute campagne lors de la présidentielle, tout débat, toute campagne lors de la législative, et qui aujourd'hui se retrouve sans majorité. Donc tout à l'heure, on évoquait l'exemple allemand, qui ne s'applique pas forcément en France, parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre tradition, mais peut-être qu'il va falloir composer de cette manière-là, et que c'est l'opportunité de donner un peu plus de poids au Parlement. Simplement, gouvernement d'union nationale, c'est avec qui et pour faire quoi? Parce que si c'est sur la base du projet porté par Emmanuel Macron, par exemple la retraite à 65 ans, je crois qu'un grand nombre de composantes de la gauche, évidemment, diront non. Si c'est un gouvernement d'union nationale avec le Rassemblement national, en tout cas, du côté de ma famille politique, on a toujours été très clair sur cette question, il en est absolument hors de question. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est de la spéculation. On va voir ce qu'il va annoncer ce soir, et sur cette base-là, comment se positionneront les uns et les autres. Mais en tout cas, je crois qu'il est plus qu'urgent de rappeler qu'il existe un front républicain et qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas tergiverser. En l'occurrence, la République en est une. Et moi, quand je vois la déclaration d'un certain nombre de membres de la République En Marche ou Ensemble, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis vraiment atterrée. Voilà, ils sont en train de banaliser complètement l'extrême droite. Ils sont en train de banaliser complètement le danger que ça représente. Et je trouve ça vraiment atterrant. Ils n'ont aucune culture politique ou en tout
alors,
cas.
Alors, justement, petit tour de table.
Et c'est encore plus grave.
Petit tour de table, Gamal Abina, Mehdi Jaziri, Gamal Abina alors. Gouvernement d'union nationale.
Bon, déjà, les termes sont ridicules dans la mesure où le gouvernement d'union nationale, ça ferait suite à une grande crise nationale, internationale. Bref, c'est un petit peu un caractère un peu d'urgence qui ne correspond pas à la réalité. Aujourd'hui, la réalité, c'est que M. Macron a fait un pari, effectivement, ça vient d'être souligné, de ne pas communiquer, de ne pas parler, de ne pas faire campagne. Ça lui a profité, 30% au premier tour, c'est extraordinaire. Second tour avec une Le Pen qui est à 42.
Tu viens de le rappeler.
Et ensuite, par contre, ces petites équipes qui sont pas très bien formées en vérité, et dont on a vu les limites en termes de gestion politique, se sont littéralement effondrées. Elles sont effondrées, elles n'ont pas été reconduites par la plupart d'entre elles. Les grands leaders se sont plantés. Mmh. Mais surtout, et c'est important de le rappeler, on a, et c'est marrant parce que cette élection choque tout le monde parce que Macron s'est planté, il a pas la majorité absolue, bon, c'est bien. S'il fait alliance avec la droite, il peut l'obtenir, mais il sera toujours pris par la droite, tenu par la droite. Ensuite, ça a été évoqué tout à l'heure, la possibilité que Le Pen puisse avoir une alliance avec lui, je n'y crois pas une seconde, alors pas un instant. Par contre, effectivement, il pourrait faire un coup assez violent s'il faisait alliance avec Mélenchon pour lui filer la patate chaude. Un pays qui est à la dérive, économiquement, qui a du mal, et avec un Mélenchon qui
ça
est...
Ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire qu'on ne peut pas gérer l'économie française aujourd'hui, sauf passer par la dette, et une dette abyssale. Macron doit faire au moins 80 milliards pour répondre aux critères de convergence qui sont imposés de déficit de 3%. Il ne peut pas, il ne trouve pas l'argent, sauf à serrer la vis, on a vu ce qui s'est passé avec les hôpitaux. Donc aujourd'hui, on a quoi? On a quand même une chose qui m'a marqué, tout le monde a ergoté et parlé de la défaite de Macron et de la demi-victoire de Mélenchon, qui en réalité est une vraie victoire, parce que pour rassembler des gens qui se détestaient à ce point, c'est impressionnant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a pas assez parlé des 89 députés FN. Je veux dire, la dernière fois en Europe qu'un pays démocratique, avec un système parlementaire, a porté à la tête d'un Parlement européen,
c'est
pratiquement
là, ouais.
100 députés, c'était en Allemagne nazie. Et les gens ont oublié ça. Je veux dire, les nazis ont fait le même parcours. Au départ, ils avaient 12 députés au Reichstag, en 28, et puis en 32, ils se retrouvent avec 120 députés. C'était monumental, 112. Monumental. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et maintenant, on est en train de faire le même scénario qu'avec l'Allemagne nazie. La droite, donc Macron et son équipe, commencent peut-être à envisager, peut-être, de faire alliance avec le Front National. C'est ce qu'avait fait la droite allemande. Ils avaient placé, parce qu'Hitler n'a pas gagné l'élection, on l'a placé. Il faut savoir que la droite s'est dit, ce sera l'autre homme, on va les rincer, le rincer, après c'est fini. Et bien ça pose problème parce que la question de la démocratie en danger, parce que la droite, l'extrême droite, qui est démocrate dans la mesure où elle participe aux élections, après peut commencer à faire des lois antidémocratiques.
Qu'est-ce qu'il y a, Emmanuel Dupuis, ça vous plaît pas ce que dit Gamal Abina?
Non, je crois qu'on se trompe de sujet. C'est pas un gouvernement du national dont il est question, c'est une majorité à l'Assemblée, c'est tout. La majorité à l'Assemblée, on peut la faire avec n'importe qui.
Mais c'est les mots qui fusent, hein, c'est pourquoi il y en a
pas. Mais non, mais on parle des gouvernements nationaux. Gouvernement national, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça le vrai débat. C'est est-ce que l'on peut, pour cette prochaine mandature, tout simplement faire passer des lois.
C'est marrant parce que tu dis, on se rend du sujet, mais je te parle d'extrême droite, ça t'intéresse pas? Je suis étonné.
Non, mais parce que, bon, premièrement, c'est pas la première fois. Hein.
Je rappelle c'est la première fois, à 35 avant, c'est rien, c'est marginal. Là, on est à 89.
Ils n'étaient pas à 35, ils étaient à 7.
Non, je parle, il y a un moment donné, c'était à 35.
Le plus haut qu'ils aient fait, c'est 35 députés.
Non, mais en Italie, je rappelle juste en Italie.
Tu parles d'Italie, vas-y.
Je rappelle.
Le MSI, vas-y, continue.
Non, mais je parle pas du MSI.
Tu parles de qui?
Je parle de la droite populiste.
L'extrême droite.
Extrême droite, voilà, je cherche.
Populiste, droite, populiste, extrême droite, oui, c'est deux choses différentes.
Faut quand même faire une petite.
D'accord. Mais bon, moi, on peut jouer sur les mots, mais franchement.
Non, je joue pas sur les mots.
Finissez avec l'Italie, Qu'est-ce que vous voulez nous dire en Italie? Qu'est-ce qui se passe?
Racialiste.
Justement.
Je vous vois arriver, mais dites-moi.
Assez grave pour ne pas jouer des mots. Non, mais. L'extrême droite.
Absolument, l'extrême droite.
L'extrême droite, d'accord. Si vous voulez.
Non, non, c'est pas si je veux, c'est l'extrême droite.
D'accord. Vous avez raison, madame.
Merci.
Alors, l'extrême droite. D'accord. Le problème, il n'est pas là. L'extrême droite, c'est 89. D'accord? Pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est dans un système qui ne peut pas fonctionner parce que les différentes révisions constitutionnelles font que pour l'instant, aucune loi ne passera, quelles que soient les décisions que vous voulez prendre de changer le système politique ou de tout simplement arriver vers. Pardon,
mais l'ancienne députée, là, peut nous le dire? Justement.
J'ai rien à fiche qu'elle soit ancienne députée. Moi, c'est pas parce qu'elle est ancienne députée qu'elle devrait être.
Mais moi, je suis étonné
plus
logique parce que 89 députés, ça intéresse la droite.
Mais c'est pas le problème que ça
intéresse. C'est le problème sur le plateau.
C'est une minorité de blocage.
Vous êtes mal.
Attends, Emmanuel. Juste à l'Assemblée. C'est une minorité de blocage. Et si Macron compose avec l'extrême droite,
c'est un problème. Mais le vrai problème, c'est pas tant qu'il y ait 89 élus d'extrême droite, c'est qu'il n'y ait pas eu de majorité.
C'est pas un problème. 89 élus, c'est pas un problème.
Si, c'est un problème, parce que c'est eux qui vont peser dans la balance.
D'accord, ok.
Si Macron fait
pour moi, le problème essentiel, c'est que le président qui a été élu il y a un mois n'arrive pas à avoir 289.
C'est attendu, ça.
C'est tout.
Le reste. C'est la démocratie.
Mais les 89 et justement cette percée historique du Rassemblement national.
Je suis très étonné de ce que tu dis là.
C'est pas surprenant parce que ça s'inscrit dans la durée.
Et si c'est surprenant,
Marine Le Pen et Emmanuel Dupuis elle-même, elle a été surprise
y a pas
des 89.
De proportionnel, ils ont 89, c'est énorme.
Elle a dit moi-même, je m'attendais pas à ce chiffre.
Je m'étonne que vous ne compreniez pas la subtilité de mon propos.
Ah, on l'a compris, mais bon.
En disant que. Vous êtes en train de focaliser le problème sur le Rassemblement national. Le problème, c'est pas celui-là.
Si, c'est ça le problème.
Le problème, c'est que la droite n'a pas réussi à faire plus de députés pour incarner une opposition. Le problème, c'est que l'opposition de gauche n'est pas suffisamment en capacité d'être une opposition et que la majorité ne peut pas gouverner. Pour moi, en tant que constitutionnaliste, en tant que professeur, c'est ça mon problème.
Et ben moi,
le
reste,
c'est un problème.
Et ben on vous répond. Je vous donne la parole. Dans l'ordre. Je vous donne la parole. Il y a Mehdi Djezeri, Gamal Abina et justement Lamia Yaraj. Mais c'est le l'heure du Quoi de Neuf comme tous les soirs. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, vous savez. S'il vous plaît. Le Quoi de Neuf, c'est avec le docteur Majid Sioussi. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir, mon cher Adil.
Allez, on vous écoute. Justement, pour le mal de tête, c'est votre billet d'humeur.
Bah écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête.
Ah si, depuis quelques jours, beaucoup.
Mais rassurez-vous,
qu'on entend la mère à la radio vous dire.
Rassurez-vous, je ne fais pas référence à la raclée que vous a mis madame cette nuit quand vous êtes rentré à 3h du matin après une fête de la musique un peu arrosée. Bon, c'est vrai que si vous n'étiez pas rentré avec cette danseuse à la maison, ça ne serait pas arrivé. Enfin, mon cher Adine, ne vous plaignez pas car vous vous portez mieux que la France.
J'espère.
En effet, celle-ci a été victime d'un énorme traumatisme crânien. Le scanner réalisé en urgence par vos confrères journalistes a bien confirmé la fracture de l'os frontal. Et vous avez compris, mon cher Adil, de quel os frontal je parle.
Oui.
Il s'agit bien sûr de l'os frontis republicanus, comme aurait dit mon vieux maître d'anatomie. Et vous qui avez fait de brillantes études de médecine, vous savez qu'il s'agit d'un os pneumatique qui protège de l'os frontal du cerveau, qui quand il est lésé se traduit par des symptômes bien connus qui constituent le syndrome frontal.
Exact.
Fait d'une désinhibition qui peut aller jusqu'à la désinhibition sexuelle. Et là, je vous vois venir, Adil. Vous allez nous expliquer que ce n'est pas de votre faute et que vous êtes malade.
Ah, excellent.
Cela explique parfaitement, en tout cas, l'attitude de Marine Le Pen, qui se voit comme la principale force d'opposition et présidente de la commission des finances, ce qui lui garantit la possibilité d'accéder à certains dossiers qui vont transformer le RN en annexe du canard enchaîné. Parmi les autres symptômes, une écolalie, qui constitue une répétition automatique des paroles de l'interlocuteur. Et on voit bien que ce pauvre Mélenchon en est affecté, qui répète en boucle la phrase de Macron « Je suis le vainqueur de l'élection, je suis le vainqueur de l'élection ». Une agressivité verbale qui, là, touche presque tout le monde, sauf Elisabeth Borne, la première ministre, qui est muette, et Éric Zemmour, qui est touché par un autre symptôme du syndrome frontal, la moria, une grande tristesse morale.
C'est ça.
Quant au président Macron, c'est plutôt la persévération qui l'atteigne. Avec un syndrome d'enjambement, j'enjambe François Hollande, j'enjambe un quinquennat, j'enjambe la présidentielle, j'enjambe les législatives. Ah, ah non, là, mince, je me casse la figure. Persévération, dans ce sens de la tactique qui remplace le fer du politique, un petit coup de rabot à gauche sur le PS, un petit coup de serpe sur les Républicains à droite, un peu de mesure de gauche dans une marmite de droite, une petite giclée d'essence sur l'extrême droite. Ouh là là, ah mince, je me suis brûlé les doigts.
Excellent, mais, c'est ça.
Mais le pire de tous les symptômes, c'est sans doute la douleur. Car la fracture du front républicain, ça fait mal. Et ça fait peur aussi. Car à partir de ce moment-là, on redoute l'impossible. Le castor s'est noyé, le barrage est tombé, et nous devrions nous inspirer des Allemands, vous savez, ce qu'on appelle les Boches, qui ont su, eux, faire des coalitions pour gouverner. Et on ferait une vraie, vraie clôture autour de leur extrême droite. Et pour votre information, mon cher Adil, sachez qu'au rayon d'or, à la République, il y a des soldes sur les valises. Allez faire provision.
C'est ça, exactement. Merci et bravo pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Majid Tsoussine, qu'on retrouve d'ailleurs chaque mercredi. Ça va dans les hôpitaux?
Écoutez, ça va très
notamment
bien.
Votre service.
J'ai jamais aussi peu travaillé avec le nombre de lits fermés. Donc, je suis déjà presque en vacances et je pense que pendant l'été, ce sera encore pire.
C'est préoccupant tout ça. Bon, mon cher docteur, à mercredi prochain sans faute?
Avec joie, avec joie.
Avec joie partagée, 19h35, nous allons revenir et je redonnerai la parole à Mehdi Jaziri, Gamal Abina, puisque Emmanuel Dupuis, pour le coup, a installé un débat. Et bien, on va en parler. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h41, c'est parti, vous le savez, avec Lamia Laradj, avec Emmanuel Dupuis, Mehdi Jaziri, Gamal Abina. Je donne la parole à Mehdi, qu'on n'a pas entendu du tout.
Ouais, j'étais calme.
Mehdi.
Là,
Allez-y, allez-y Mehdi, ensuite après, dans l'ordre, Mehdi Jaziri, Gamal Abina et Lamia, pour évidemment répondre et continuer d'avancer, puisqu'on a un second sujet, c'est l'allocution du président de la République. Je voudrais qu'on donne quelques éléments de langage.
En fait, là-dessus, par rapport à la coalition d'Emmanuel Macron, si on peut appeler ça comme ça, moi je trouve qu'en fait c'est plus en fait juste Emmanuel Macron qui est pas content parce qu'il a pas eu tous ses sièges et qui a envie, comme pendant ces 5 dernières années, de tout gouverner sans demander à personne. Donc en fait, il va vendre ça comme une belle union, un peu comme la NUP, sauf que la NUP finalement c'était pas du tout une belle union. On le voit encore aujourd'hui, ça s'est cassé la gueule, voilà.
Cassé la gueule, pas tout à fait.
Non mais, enfin, je veux dire. Là, de ce qu'on voit aujourd'hui...
Ils ont réussi quand même à avoir 131
à l'Assemblée,
sièges.
Non, mais bien sûr, mais à l'Assemblée...
Enfin, 30% des voix.
Voilà, 30% des voix déjà. Et puis, à l'Assemblée, il faut voir ce que ça va donner.
C'est pas mal.
C'est cool d'avoir le nom, la NUP, etc. Mais il faut voir ce que ça va donner. Là, Emmanuel Macron, il va vouloir vendre la même chose quasiment, sauf que ça va être avec tous les différents partis. Il y a la nuance aussi de dire que ça va être sur certaines lois, peut-être, mais je pense que c'est simplement Emmanuel Macron qui, finalement, lui, voilà, il veut gouverner comme pendant les 5 dernières années. Il n'est pas content, donc oui, il va aller chercher vers l'extrême droite. Et oui, l'extrême droite, la montée de l'extrême droite, c'est un problème. Emmanuel Macron.
Sauf que le schéma a changé, mon cher Mehdi Jaziri. Oui. C'est plus du tout celui d'il y a 5 ans.
Bien sûr.
Eh oui, le visage, le tout nouveau visage de l'Assemblée nationale n'est plus le même.
Il y a deux problèmes. Il y a la montée des extrêmes. Dans l'extrême droite, par exemple, qui c'est un véritable problème. On ne peut pas dire que ce n'est pas un problème. C'est un problème. Et ensuite...
percée historique. Ce n'est pas une plus montée, là.
Voilà,
c'est historique.
Et ensuite, un truc dont on ne parle pas, dont les dirigeants de parti n'ont pas parlé, ils ont tous dit on a gagné. L'abstention.
Ouais, c'est clair, ça va.
Voilà, 53% d'abstention. On est à là, aujourd'hui. Donc, on est dans un pays, quand même, où il y a 53% d'abstention, où tous les partis sont complètement divisés.
Mais c'est
malgré
aussi un
les
message.
Coalitions.
Les 53%, c'est peut-être aussi un
la
message.
La gauche est à un état super faible, alors qu'elle se vend comme
une réussite. Il y a un divorce politique.
L'extrême droite monte, et Emmanuel Macron, le président, il n'est pas content parce qu'il n'a pas tous ses sièges. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Gamal Abina, et ensuite Lamy El Haradj.
Je pense que le risque qu'on n'avait pas il y a 5 ans, Macron a fait un effort, il est ouvert à la diversité, c'est déjà pas mal. La symbolique était intéressante. Il y a 5 ans, il avait une Le Pen qui était ridicule. Dans un débat où elle s'est humiliée. Et il se trouve que Le Pen a refait le même débat. On a un peu moins ridicule, mais dans tous les cas de figure, elle n'était pas à la hauteur, comme toujours. Et elle a fait un score encore meilleur qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que si le leader de l'extrême droite était meilleur que Le Pen, si c'était un vrai personnage charismatique, ce serait catastrophique et elle serait au pouvoir. Parce qu'elle a raté le pouvoir de 8 points, quand même. Et donc, j'allais dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'il y ait une coalition ou un gouvernement du non-national, on l'appelle ça comme on veut, ce n'est pas ça la problématique qui se pose. C'est que ce qui va donner le là de la politique, qui était déjà très, très rance hein, pendant 5 ans, ce qui va donner le là, c'est la puissance de l'extrême droite qui, elle, influence le débat politique et ses idées vont de plus en plus rentrer. On voit des Aurore Berger qui s'est largement manifesté dans des idées très, très radicales. On voit quand même ça. L'aile droite de Macron, je veux dire simplement, qui s'est beaucoup exprimée, les Blanquer et autres, bien là, ils sont complètement en roue libre, parce qu'ils savent que la France est partagée en deux, avec un Français sur deux qui ne vote pas, et la deuxième partie qui vote, la moitié est Front National. Donc ça veut dire que la force réelle du Front National, c'est 25% de la population. Je parle en moyenne. Avant, le Front National faisait une élection où elle cartonnait en national, sur la présidentielle, et elle s'effondrait dans les locales. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Lamy El Haradj, ensuite après, où je voudrais qu'on parle quand même de l'allocution du chef de l'État, Emmanuel Macron, dans 15 minutes maintenant.
Moi, je partage l'inquiétude autour de cette percée historique du Front National, du Rassemblement National, puisque maintenant ça s'appelle comme ça. Il ne faut pas oublier ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui dans ce pays, ce qu'elle a porté dans le poids de l'histoire, ce qu'elle représente et quelle est son idéologie de base. La problématique qu'on a, pour moi, elle a plusieurs facettes. La première, c'est que on a une extrême droite qui s'est complètement banalisée, et là-dessus les médias ont une part de responsabilité, où ils sont invités sur tous les plateaux.
Médias privés, faut préciser. Mais,
oui, pas les médias indépendants.
Ou public, même public.
On peut d'ailleurs se poser la question aussi de l'indépendance des médias, mais bon, c'est un autre débat, mais je crois que ça va être un débat très important dans les prochaines années. Parce que ça pose de véritables sujets où il y a des gens qui ont pu exprimer un certain nombre de points de vue, qui sont passibles de poursuites pénales, qui sont passibles d'un certain nombre d'attaques pour négationnisme, pour un propos raciste,
ou qui ont été condamnés,
le dire de façon totalement open, et ça n'a posé aucun problème.
Mais Zemmour,
par exemple, pour ne pas le citer. Au-delà de ça, on a un Rassemblement National qui aujourd'hui est complètement banalisé dans le champ politique, c'est-à-dire que moi, quand j'avais vu un reportage, je ne citerai pas lequel, où on avait une Marine Le Pen qui apparaissait au milieu de ses chars et qui expliquait à quel point elle était une bonne mère de famille, qu'elle vivait avec sa colocataire, j'étais... un peu scotché. Et enfin, on a, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu certains débats qu'il y a eu dans le cadre des législatives, il y a des candidats aujourd'hui élus députés du Rassemblement National. Quand on voit le niveau de ces gens-là, je suis atterrée. Et quand on voit enfin les affaires qu'ils ont, qui les poursuivent pour des détournements de biens publics, pour les affaires d'assistants parlementaires au Parlement européen, et que malgré ça, ces gens-là aujourd'hui sont 89 au Parlement, et ben moi, je suis désolée, je suis inquiète. Je m'appelle Lamy El Haradj, je suis élue parisienne, et puis je suis inquiète, parce que je ne sais pas ce que va donner ce quinquennat qui arrive. Mais au-delà de ça, en 2027, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que plus on regarde les résultats électoraux du Rassemblement National, nationale, plus ils augmentent dans les territoires ruraux
quand
et périurbains.
Quand on regarde effectivement, les Antilles en particulier.
Donc la gauche peut expliquer qu'elle a gagné. La gauche peut expliquer qu'elle a gagné, mais la gauche n'a fait que 30%. Elle n'est pas majoritaire. Elle n'a fait que 130 sièges de députés à son, dans son entièreté. Et à côté de ça, vous avez le Rassemblement national qui en fait 89 et qui s'installe dans la France périurbaine, qui s'installe dans la France rurale. Et ça, ça doit vraiment nous inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est vécu non pas uniquement comme une réponse raciste ou xénophobe, mais est vécu comme une réponse au malaise social. Et ça, c'est très, très grave.
Madame, messieurs, je voudrais qu'on avance vraiment.
Une question importante. Oui. Là, ils viennent faire un jackpot parce qu'ils viennent de remporter une élection avec beaucoup d'élus et leurs problèmes financiers sont réglés d'un coup.
Exactement. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure.
Et ils dépendent même plus de Poutine.
Absolument.
Ouais. Allez, justement, un peu plus de 10 minutes, c'est l'allocution d'Emmanuel Macron à 20h précisément. Je vous salue, Lamia El Haradj. Merci d'avoir été avec nous.
Merci,
vous reviendrez
beaucoup,
quand vous voulez.
Avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir.
Je voulais
bien
parce que vous avez un petit impératif. Bonne soirée, on vous embrasse.
Au revoir tout le monde.
À bientôt. Alors, Emmanuel Dupuis, pour le coup, quels sont les éléments de langage pour ce soir? À quoi peut-on s'attendre?
C'est pas moi qui faut
dire.
Je déteste ces éléments de langage.
Non, mais à quoi peut-on s'attendre?
Mes propres éléments, mes propres appréciations. Ce qu'il va dire, vous voulez dire, Adil, ce qu'il va dire, je crois qu'il est un petit peu bloqué. Alors, il a plusieurs scénarios qu'il pourrait éventuellement mettre en place. Premièrement, essayer de valider l'idée selon laquelle un certain nombre de débauchages individuels vont continuer et qu'après tout, on va passer de 245. Il en faut 44 et on va comme ça essayer d'en picorer quelques-uns. C'est une politique qui n'est pas très glorieuse, mais in fine, avec le temps, il pourrait éventuellement avoir une majorité toute relative, qui pourrait durer quelques semaines pour gérer les affaires courantes. Deuxième scénario, c'est de dire aucun parti ne veut accepter ce principe de la coalition du gouvernement d'Union nationale, je suis obligé de tenir compte du fait que la politique que j'ai incarnée n'est pas majoritaire. Et que les raisons pour lesquelles les Français ont voté pour le président correspondent aux raisons pour lesquelles ils ont dévoté ou se sont opposés à lui un mois plus tard. Et donc, à un moment ou à un autre, d'ici quelques temps, il est tout à fait possible, si on est dans la cohérence de la Ve République, on l'est plus, puisqu'on a une constitution qui ne correspond plus du tout à la réalité électorale. On est revenu à la 4ème République, avec une constitution qui n'est pas faite pour ça. Oui. Donc, soit il amplifie le trait en disant il faut changer la constitution, il faut passer à autre chose, il faut une révision constitutionnelle, une dose au proportionnel pour que toutes les forces politiques puissent s'exprimer.
Donc, en gros,
ce qui s'est passé...
Il fait du Mélenchon, finalement.
Mais en gros, ce qui s'est passé dimanche, c'est quoi? Malgré le fait qu'il n'y ait pas la proportionnelle, les Français ont voté comme s'il y avait la proportionnelle.
Absolument. Tout
à fait. C'est aussi simple que ça.
C'est vrai.
Donc, à un moment ou à un autre, ça va pas changer. Ça va pas changer. On va pas revenir en arrière. Non. Ni pour l'abstention, et on s'en désole, ni pour le système gouvernemental. Système institutionnel. Donc, on pourrait penser qu'il va annoncer le fait que comme ce pays et cette majorité est introuvable, ben, qu'il faut revoter. Pas tout de suite. La constitution l'autorise à annoncer dès ce soir qu'il dissout l'Assemblée nationale et qu'on revote. Il le fera pas.
Non.
Le risque serait énorme.
Non, il serait
qu'il se prenne une
encore
plus forte. Alors, le dernier élément, mais je crois qu'on est assez d'accord, puisque j'ai cru comprendre que Gamal acquiesçait à l'idée, il pourrait partir sur son Aventin, comme on dit, et être un président qui ne fait que de l'international et régler le problème en disant, après tout, si l'opposition la plus tolérable c'est celle de la NUPES, que Mélenchon incarne la primature, que Mélenchon affronte l'immensité des défis auxquels notre société va faire face, et moi je m'occupe de l'image de la France. C'est aussi une option qui est possible.
Donc le nommer Premier ministre.
Oui, bref, il pourrait c'est
pas,
une surprise.
C'est pas impossible.
Ouais. C'est pas impossible.
Surtout après ce qui s'est passé avec Elisabeth Borne.
Exactement. Alors, surtout avec le dégommage, le désengage en règle d'Elisabeth Borne. Oui.
Alors tiens, Mehdi Jaziri, et ensuite on écoutera Gamal Abina.
Bah, moi je suis.
L'allocution.
Je suis quand même assez d'accord avec ce que vous dites. Après voilà, moi j'ajouterais quand même que ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est surtout en fait une crainte de ne pas avoir la liberté qu'il avait quand même pendant son premier quinquennat, qui est en train de s'exprimer en ce moment. C'est quand même assez grave, justement, parce que c'est quand même la preuve que c'était pas de la dictature, mais c'était un peu quand même ça pendant les 5 dernières années, et qu'il a ce besoin pour, entre guillemets, bien gérer le pays, d'avoir ça. Donc oui, je pense qu'il va refiler la patate chaude à Mélenchon, finalement, et qu'il va se présenter comme un ami de l'Ukraine, comme le chef de l'Europe, comme le beau gosse qui gère la France, quoi. Il pourra faire que ça, malheureusement. Parce que là, finalement, le paysage politique qui se dessine n'est pas...
Comme à l'époque de Jacques Chirac.
Voilà, mais en tout cas, c'était sûr. Après, les cinq années qui sont déroulées avec...
Il a fait que ça, d'ailleurs, Jacques Chirac. Il a voyagé,
Voilà. Après la crise sanitaire, après les gilets jaunes, après le convoi encore après qu'il y a eu... Enfin, je veux dire, c'était sûr et certain que ça allait se passer comme ça. C'était sûr. Il ne pouvait pas avoir la majorité comme il l'avait au premier quinquennat et gouverner comme il le voulait. Ce n'est pas possible. En revanche, comme il a eu un bon bilan international... Ça me paraît bien évidemment plus probable qu'il...
Il a plutôt bien géré le Covid en plus.
Ça n'a pas été bien perçu, mais voilà, c'est ça. Oui.
Il avait un mauvais ministre de la Santé.
Oui, c'est clair.
Espérons qu'il ne devienne pas président de l'Assemblée nationale, mon Dieu.
Véran
Ah ben, son nom circule. Hein.
Ouais. Son nom circule, effectivement, je crois.
C'est impossible.
Gamal Abina.
Non, moi, je pense que tous les scénarios sont ouverts, évidemment, parce que la situation est une situation de crise, une crise institutionnelle, c'est bien de le rappeler, effectivement, Emmanuel, qui est spécialiste de la question, fait bien nous rappeler ça. En réalité, ce qui se passe, c'est que je pense aussi, on en a parlé tout à l'heure, qu'il pourrait effectivement faire un coup d'éclat en cédant cette fameuse place de Premier ministre à Mélenchon. Et effectivement, moi, à sa place, j'aurais fait parce que, vu le dossier.
C'est surprenant quand même. Hein.
Non, oui, mais la surprise chez Macron, c'est pas une surprise. Il a nommé une SPL.
Mais lui, il pourrait pas gouverner s'il est Premier ministre. Il a nommé une SPL.
Il peut pas gouverner de toute façon.
Même s'il nomme Jean-Luc Mélenchon, il ne pourra pas.
Adil, je vous juste.
Il pourra pas.
Adil, je voudrais remarquer une chose pour finir.
Il pourra pas.
Il a surpris en nommant un homme qui était détesté par la magistrature, qui était Dupond-Moretti. C'est pas une surprise. Chaque fois, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des surprises.
Nommer Jean-Luc Mélenchon pour faire quoi?
Non, mais attendez. Pour gérer les affaires d'intérieur. Avec un programme inapplicable. Parce que le programme de Mélenchon est inapplicable.
C'est des gens qui finalement. Regardez bien tous les ministres qui sont autour d'Emmanuel Macron, c'est des gens qui l'ont détesté à une période.
Ouais.
C'est pas étonnant. Pour moi, c'est pas une surprise. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose de fort probable. Même Darmanin, Bruno Le Maire, tous, ils étaient contre lui au départ. Ils s'entourent de ses ennemis, Emmanuel. C'est ça, Emmanuel Macron.
Ouais, Gamal, vite.
Juste pour finir, simplement, c'est que ça peut être ça. Ça peut être un gouvernement. Il y a quand même la droite qui existe encore. Paul Bi, elle est là, la droite. Il pourrait faire appel à la droite, mais ce serait une instabilité chronique, puisqu'ils arrivent tout juste à une majorité. Et en vérité, Macron est capable de tout, parce que c'est un homme qui veut rentrer dans l'histoire. Je pense qu'il s'inscrit dans la filiation de Chirac. Je tiens à rappeler que Chirac a été un mauvais président à l'intérieur, très mauvais, et un excellent président à l'international. Macron veut laisser son nom de l'histoire et un nom qui brille. Ses cinq premières années n'ont pas été bonnes. Si là, il s'inscrit dans l'international, il fait très bien son boulot là-dessus, sur l'Ukraine, sur le rapport avec la Russie. Il peut effectivement surprendre.
Emmanuel Dupuis, je rends l'antenne.
Allons dans les surprises. Éventuellement, Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, et si on lui donne par ailleurs la présidence de la Commission des Finances, qu'il veut aussi, ça voudrait dire qu'on a un Premier ministre qui incarne une majorité de gauche, et donc une opposition de droite. Donc, de facto, la droite qui ne veut pas gouverner avec Macron sera obligée de s'associer à elle pour s'opposer à un certain nombre de lois qui viendront de la gauche. C'est aussi simple que ça.
Quelle belle ironie.
Et donc, du coup, Macron a exactement ce qu'il veut. Il a une cohabitation. Il tient l'exécutif et personne n'en bougera. Et le législatif, et donc de facto la primature, sera bloqué par le Parlement. Absolument. C'est exactement.
On pourra se vanter d'avoir battu.
C'est le scénario le plus adapté, ou en tout cas le moins pire.
Sur un plan stratégique, oui,
bien sûr.
Eh bien, merci pour ce décryptage, messieurs.
On va l'entendre dans 6 minutes.
Dans 6 minutes, exactement. Bilal Lendman, justement, il prend le contrôle Timesport 20h-21h. Messieurs, merci à Gamal Abina, merci à Mehdi Jaziri, merci à Emmanuel Dupuis. Messieurs, à très bientôt sur ce plateau même des informés sur BFM. À demain, avec autant de plaisir, vous le savez. Merci à la réalisation, c'était Yanis. À demain, on ne lâche rien. Et l'allocution dans moins de 5 minutes maintenant, 5 minutes précisément. Voilà. Allez, Bilal Lendman.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.